Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou aussi sur le podcast de Erdiwa sur son site www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous recevons monsieur Guillaume Bayard. Bonjour.
Bonjour.
Guillaume Bayard, vous étiez déjà passé il y a quelques semaines pour nous présenter Tartuffe de Molière. Aujourd'hui, c'est une nouvelle représentation qui aura lieu donc le 26 juin au théâtre Les Airs, Adi, et qui s'intitule donc La Centrale en Chaleur. Alors, on peut deviner tout de suite, la centrale, ça concerne le nucléaire en premier lieu.
Bien vu. En fait, c'est un roman, à la base, un roman japonais de Genichiro Takahashi, qui s'appelle donc, pareil, La Centrale en Chaleur. Enfin, en japonais, c'est presque La Centrale Amoureuse, en fait, la vraie traduction. C'est plus ambigu, c'est moins sexuel. Et dans ce roman, et donc dans le, nous on a travaillé sur ce roman, on en a fait une adaptation pour le théâtre avec un auteur contemporain qui s'appelle Romain Nicolas, qui a signé l'adaptation. Et dans ce roman, on suit une boîte de production de films pornographiques qui décide de tourner un porno philanthropique pour venir en aide aux victimes de la catastrophe de Fukushima. Donc voilà, ça c'est le pitch incongru de ce spectacle. Et en fait, disons que si je devais donner un style au spectacle, on est dans la farce. C'est assez comique, même si les questions abordées sont tragiques, catastrophiques, déprimantes, terrorisantes, puisqu'il s'agit d'une catastrophe nucléaire. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que, enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur ce spectacle. Le procédé, il est un peu particulier. Parce qu'assez vite, dans le travail, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un cœur. Parce qu'il nous manquait, en fait, plusieurs choses. Et une des choses importantes qui nous manquait, c'était le peuple. Donc on avait trouvé des dispositifs, on faisait jouer le peuple au public. On a fait tout un moment de travail comme ça, où on était juste six. Et puis il y avait des mises en jeu du public et tout ça. Mais ça ne nous semblait pas très convaincant. Et à un moment, on s'est dit, mais en fait... ce qui nous manque, c'est tout simplement, comme dans les tragédies grecques, c'est un cœur, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui représentent le peuple. Et comme en fait notre, enfin il y a plusieurs choses, mais le projet, c'est vraiment de tourner et de changer de cœur à chaque territoire sur lequel on arrive. On demande aux gens du coin, on fait un appel à participation. Et on demande à ceux qui en ont envie de venir jouer le peuple, puisqu'ils sont les représentants du peuple sur le territoire sur lequel on joue. Donc on joue avec cette ambiguïté-là un peu, quoi. Et donc là, pour ce qui concerne Di, en fait, c'est un partenariat entre le théâtre de Di et le théâtre de Privas. Donc on fait un chœur moitié-moitié. On a réussi à rassembler la Drôme et l'Ardèche. Et c'est 4 Diois et 4 personnes, 4 Ardéchois et Ardéchoises.
Et donc, ces chœurs symbolisent quoi dans cette représentation?
En fait, donc, la première chose qui symbolise, disons, c'est donc le peuple à qui arrive la catastrophe, donc les Nippons, en fait. Il s'agit beaucoup des Nippons, à plein de moments, même dans le texte, c'est dit parfois en boucle. Donc ils représentent le peuple japonais, on pourrait dire. Mais en fait, ils endossent aussi d'autres rôles. Parce qu'en fait, à la base, on avait un besoin, c'était de pouvoir transposer certains éléments de la pièce qui nous semblaient très japonais et très culturellement marqués, et donc incompréhensibles éventuellement pour un public français qui ne connaît pas bien la culture japonaise, ce qui est le cas d'à peu près tout le monde, à part quelques spécialistes. Donc en fait, on avait produit des trucs qu'on appelait des notes de la production, qui sont comme des notes de bas de page, mais qu'on vidéo-projetait. Donc ce truc-là, pareil, nos vidéoprojections sont devenues des paroles scandées par le chœur. En fait, il y avait ça, par exemple. Il y avait aussi Une chose, c'est qu'on avait besoin d'environnement. À des moments, il y a des scènes qui se passent. Il y en a une qui se déroule dans l'océan pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Il y en a une autre qui se déroule devant la centrale de Fukushima après la catastrophe. Donc il y a des sortes de décors dont on avait besoin. Il y a aussi un décor qui est un gymnase de réfugiés, pareil, après la catastrophe, qui viennent dormir dans un gymnase avec, comme on peut l'imaginer ou comme on peut l'avoir vu, avec des petits carrés-mats, des tapis de sol, des sacs de couchage, des tentes, des vêtements pratiques qu'on met quand on est loin de chez soi et qu'il faut avoir chaud et se protéger du froid et des intempéries. Donc il y a une ambiance de gymnase, comme ça on avait besoin de ça. Donc ça, c'est pareil, tous ces événements décoratifs, on va dire, sont pris en charge par le chœur. Et c'est le chœur qui figure, qui joue les marins dans l'océan, qui figure les réfugiés. Et puis pour la centrale, je le dis pas, c'est une surprise. Mais il y a aussi un stratagème pour ça, quoi.
Ce spectacle est inspiré donc d'un ouvrage, on peut citer l'auteur et puis le titre,
ouais, donc
j'imagine que c'est La centrale en chaleur, le
donc
titre
c'est La
original.
Centrale en chaleur, le nom de l'auteur japonais c'est Genichiro Takahashi, le traducteur français s'appelle Sylvain Cardonnel, j'espère que je ne dis pas une bêtise, j'ai un petit doute mais c'est ça, et notre adaptateur au théâtre s'appelle Romain Nicolas. Qui a fait la pièce, sachant qu'on a travaillé beaucoup entre le roman d'origine, Romain qui était là, qui réécrivait des bouts, et puis nous aussi, avec la mise en scène et les acteurs, on proposait des transpositions. Il y a aussi des choses où à des moments c'est très fidèle au roman, puis à des moments ça s'émancipe vraiment, et il nous a semblé que pour avoir de l'impact, il fallait qu'on ramène aussi des problématiques sociales qui sont plus françaises.
C'était un ouvrage rédigé au plus près de la réalité du moment, ou alors il y avait un regard peut-être plus satirique, hein, puisque c'est une œuvre satirique.
Ouais. En fait, c'est une tentative. Le truc, c'est que une catastrophe nucléaire, c'est très dur d'en parler, parce que c'est un événement tellement puissant, puisque c'est quelque chose dont on sait qu'il va avoir un impact sur une durée qui nous dépasse complètement. Puisque c'est des milliers d'années. Le nucléaire, c'est impalpable. C'est-à-dire que c'est pas comme un feu de forêt. Enfin, une fois qu'on a vu la centrale exploser, c'est quand même impressionnant. Mais après, voilà, la radioactivité, c'est pas quelque chose qu'on peut sentir, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Enfin, il y a quelque chose de très fantomatique et de dur à attraper, en fait. Donc, c'est un événement irreprésentable, en quelque sorte. Et il y a un philosophe allemand qui s'appelle Günther Anders, qui nous a beaucoup éclairé et inspiré pour ce travail-là. Et lui, il appelle ça, il dit les catastrophes nucléaires, c'est devenu un militant anti-nucléaire, Günther Anders, il dit les catastrophes nucléaires, c'est des événements supraliminaires, c'est-à-dire qu'ils sont tellement gros qu'on ne peut pas les voir. C'est-à-dire, notre imaginaire ne peut pas faire le tour du truc tellement ça nous déborde, en fait. Et je pense que ce roman japonais est une tentative de représentation de cette catastrophe. Donc, en quelque sorte, c'est perdu d'avance. mais en tout cas, c'est comme si l'auteur s'était donné cette mission, quoi. Et on sent que c'est écrit dans l'année de la catastrophe. Et il s'est dit, OK, je m'y colle. J'essaye de renvoyer quelque chose, de fabriquer un objet, d'avoir une réaction artistique à une catastrophe comme ça. Voilà.
Un ouvrage donc sorti en 2011. Ouais. Très vite, à quel moment vous l'avez perçu, ce roman, et ce désir d'en produire un spectacle?
Ouais. En fait, je suis tombé sur un article, je crois que c'était dans Libération. Il y a des sortes de quatrièmes de couve là, dans Libé. Enfin, je ne sais plus s'ils font encore ça, je ne le lis plus, mais avec des portraits. Et c'était un portrait de lui. Je ne connaissais absolument pas cet auteur, qui est un professeur de littérature émérite au Japon, et qui est à la base une sorte de militant de l'ultra-gauche qui a fait de la prison. C'est une sorte de personnage, ça c'est typiquement japonais, quoi, que l'institution a fini par accepter. C'est des gymnastiques qui existent moins chez nous. Voilà, et il a écrit pas mal d'essais et quelques romans, mais pas tant que ça, en fait. Au milieu de cet article, il parlait de la centrale en chaleur. Et comme la question de la catastrophe, c'est un truc qui c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'interpelle et à laquelle j'ai tendance à revenir, que j'ai essayé de traiter dans d'autres spectacles de différentes façons. Mais quand j'ai lu l'espèce de pitch absurde là, avec la pornographie au milieu, je me suis dit, mais enfin, c'est quoi ce truc invraisemblable? Donc je l'ai commandé, c'est édité chez Books d'ailleurs. toute petite maison d'édition. Et je l'ai lu, c'est très dur à lire, c'est hyper compliqué, la graphie est hyper bizarre. Il y a des événements en gras, il y a des... Voilà, c'est... J'avais du mal à l'attraper. En même temps, je me disais, mais c'est génial. Il y avait des moments où je trouvais hyper... des sortes de fulgurances, quoi. Des moments où je me disais, putain, c'est... Comment il a pu écrire ça ?
C'est une traduction qui est restée fidèle à l'original, c'est-à-dire que l'impression était composée pareillement.
En fait, moi, je lis pas le japonais, donc...
Par oui dire, je suppose.
Ouais, j'ai l'impression, j'ai l'impression. J'ai l'impression que... j'ai l'impression. Mais ça reste une impression. Mais oui, je pense qu'il en a. En tout cas, il en a fait. Le traducteur, il en a fait quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si c'est une langue tellement différente de la nôtre et tout. Je ne sais pas vraiment comment elle fonctionne, moi. Donc je ne veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, ce qu'on sent pour avoir lu d'autres romans japonais ou vu des films ou m'intéresser un peu à la culture japonaise, je la connais pas très bien, mais j'ai l'impression que de retrouver des sensations que j'ai vues ou lues ailleurs. Enfin, il y a un truc... et notamment, une des façons d'attraper la chose, c'est qu'il passe par la pornographie, en fait, pour nous parler d'une autre obscénité. C'est-à-dire que la pornographie est une fausse piste totale. au début, si on se dit pornographie, on peut penser obscénité. C'est un a priori qui peut nous arriver, quoi. Et finalement, ce qu'il fait, c'est qu'on s'attache à ces personnages qui essayent sincèrement de monter un film dont on ne sait pas d'ailleurs s'il est un fantasme. On ne sait pas si on assiste à un making-of, à un projet dans la tête de quelqu'un, si le film va être abouti, vraiment fait, si on est sur un tournage ou pas. Enfin, y a une sorte de zone de flou là-dessus. Mais il y a ce projet de film est là dans tout le roman. Merde, je me suis perdu, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, et finalement, on s'attache à ces personnages qui n'arrêtent pas de faire des réunions de production parce que rien ne va, qui débattent de la pornographie philanthropique, qui essayent de théoriser un peu le truc, qui essayent de faire de leur mieux en quelque sorte. C'est-à-dire, à leur endroit spécial, ils deviennent des êtres qui essayent en tout cas de faire quelque chose, de réagir, et puis d'inventer un truc. Là où des personnages publics plus moralistes vont nous expliquer ce qu'il faudrait faire, mais qui finalement, à part produire du discours, ne vont pas produire grand-chose. Finalement, l'obscénité pornographique, le roman n'est pas du tout pornographique, il est parfois un peu vulgaire, et le spectacle non plus, et le spectacle est aussi parfois un peu vulgaire, mais il n'y a pas du tout de pornographie. Par contre, ça parle de pornographie. Et la pornographie est une fausse piste. C'est-à-dire que l'obscénité dont il est question, finalement, c'est une obscénité industrielle, politique et médiatique. Et finalement, l'espèce de concept ou de chose qu'il essaye de cerner, l'auteur, mais c'est pas intellectuel, c'est un truc sensible, le truc qu'il essaye de nous faire sentir, c'est un certain rapport à la nature, en fait. Et finalement, on pourrait dire que le rapport d'objectivation qu'il y a dans la pornographie, c'est-à-dire qu'on met en scène des corps... pour fantasmer dessus, pour créer de l'excitation. Enfin voilà. Donc c'est des corps qui deviennent des objets de fantasme, des objets de masturbation par exemple. Donc ça, voilà, la pornographie fait de corps vivants des objets. Et finalement, c'est comme s'il nous disait ou s'il induisait que notre rapport à la nature, c'est peut-être un peu le même. C'est-à-dire que le fait d'aller extraire de l'uranium, creuser dans la roche, le raffiner, casser des atomes pour fabriquer de l'énergie qu'on va ensuite utiliser pour mettre dans des machines, pour nous éclairer, pour que ça, c'est peut-être un mouvement obscène et c'est peut-être un mouvement d'objectivisation de la nature, en fait. Et finalement, moi, j'ai l'impression que c'est très japonais, mais je ne sais pas, c'est peut-être un cliché de dire ça, mais ça avance par motif et c'est très indirect. C'est-à-dire que jamais c'est théorique, c'est tout le temps... Il fait sentir des théories, mais jamais il les écrit, en fait. Mais en tout cas, voilà, la pièce, elle parle de ça, quoi, de cette obscénité-là, quoi. C'est vraiment ça le sujet, quoi.
Une petite parenthèse, l'obscénité, c'est aussi en quelque sorte, ou la pornographie, c'est en quelque sorte ce qui heurte la sensibilité de chacun de nous, ouais. Que ce soit au niveau sexuel ou d'autres approches. On peut parler d'obscènes, des propos inqualifiables ou sur des individus. Enfin, je sais pas. Voilà, je voulais replacer ce mot, l'obscénité ou la pornographie. Ouais. Et l'érotisme n'a pas de place dans ce spectacle ?
Alors, totalement. Et d'ailleurs, dans tous les spectacles que je fais, il y a la question de l'érotisme est très forte, mais ce n'est pas un érotisme au sens relié au sexe. C'est un érotisme de du rituel théâtral. C'est-à-dire, c'est un peu ce que j'ai pu raconter quand je vous avais parlé de Tartuffe. Il y a un peu ce même mécanisme. C'est que finalement, c'est du théâtre qui se fabrique très peu dans l'image. Évidemment qu'on voit, il y a des choses à voir, il y a des images à des moments quand même. Enfin, les gens se déplacent, ils font des trucs, ça fait des images. Mais c'est pas en tout cas le véhicule premier du sens des trucs qu'on fait, quoi, les images. Et au contraire, on va essayer de plus d'être dans un rapport, par exemple, au texte et au jeu de partition. Et donc ça se passe plus dans le son, dans la parole, dans l'énergie, dans le rythme. Tout le chœur est derrière un pupitre, un peu comme un orchestre d'ailleurs. Et c'est un rapport, le chœur, il a un rapport très musical au jeu en fait. Ils sont presque plus considérés comme des musiciens. Leur justification à être sur scène, c'est plus celle de musiciens que celle d'acteurs. C'est-à-dire que le chœur, ils produisent des sons, mais ils n'ont pas tellement de comportement, voilà, il n'y a aucune psychologie. Enfin voilà, c'est pas du tout, ça ne se passe pas du tout là. Et pourquoi je dis tout ça ? Ah oui, c'est que... Et du coup, le fait comme ça d'essayer de fabriquer des appuis, en fait, pour l'imaginaire du spectateur, pour moi, c'est une proposition érotique. Parce que finalement, ce que ça va faire, c'est que l'objet spectacle, il n'est jamais là de façon finie. Rien n'est donné à voir. Tout est donné à imaginer pour les spectateurs. Voilà, on fait des débuts de propositions. Enfin, c'est comme des prémices en fait. C'est comme si on donnait tout le temps des débuts d'images. Voilà, il y a un truc qui est pas là où la pornographie. C'est presque la pornographie en tout cas moderne. On veut tout voir absolument. Enfin, tout est absolument donné à voir. Ça serait son but ultime, disons. La pornographie moderne, ça veut rien dire. Il y en a des tonnes, des pornographies différentes et tout. Mais en tout cas, il y a une tendance de la pornographie à ça, à tout, à montrer ce qui ne doit pas être montré. Et nous, on rame à l'inverse, quoi. C'est-à-dire que, et même souvent dans le travail, quand il y a une image trop nette, par exemple, moi, je vais la casser, enlever un bout, décaler un truc, presque comme s'il fallait que ce soit pas fini ou pas complètement fonctionnel. Et ça, c'est vraiment une invitation. Et ça, ça demande beaucoup de précision. C'est pas du tout qu'on fait des choses floues. Au contraire, ça nous demande d'être extrêmement précis. En fait, c'est toujours pareil, quoi. C'est plus on est précis, plus pour le spectateur, lui, il va avoir de la place, il va pouvoir ouvrir son imaginaire et le projeter sur ce qu'on fait, en fait. Donc ça, oui, pour moi, c'est un rapport érotique, quoi. Enfin, c'est un rapport érotique, ouais.
Justement, je disais quelques propos de Georges Bataille récemment, ouais. Où pour lui, le travail, c'est préparer l'avenir, les générations à venir, tout simplement. Ouais. Et pour lui, l'érotisme, c'était aussi travailler uniquement sur le présent.
Ah ouais ?
Oui.
Ah ouais, bah ouais, grave. Bah non, mais Bataille, c'est super. Enfin, j'aurais du mal à faire un pont direct avec Bataille, là, avec ce qu'on fait. Mais oui, ce que vous dites, ça... Oui, il y a un truc avec... Ah, c'est marrant qu'ils disent ça, ouais. Ouais, le truc du présent. En tout cas, oui. La manière qu'on a d'envisager les choses théâtralement, c'est de créer des... Souvent, il y a un mot qui revient, c'est le rituel. C'est-à-dire, comme vous savez, dans certains rituels, des cérémonies où on va faire apparaître des dieux, par exemple, finalement, on met en place des choses... pour que le dieu apparaisse. Et nous, c'est pareil. On met en place des choses pour qu'un spectacle apparaisse. Mais c'est vraiment la même logique, quoi. Et pour faire ça, il faut être extrêmement présent. C'est-à-dire que si les acteurs sont dans un rapport, s'ils sont en train de refaire quelque chose, s'ils sont en train de représenter, même si par moment on passe par des jeux de représentation et tout ça, mais ça marche pas. Il faut qu'ils soient présents, il faut qu'ils inventent ce qu'ils sont en train de faire. Donc il y a une sorte de... Des fois, on dit c'est pas du spectacle vivant, c'est du spectacle vivant. Il y a un truc, il y a une volonté de... Voilà, il faut que ça se passe maintenant, quoi. Le truc est à activer à chaque seconde, en fait. Enfin, il y a quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est aussi... oui, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais il y a un rapport au comique qui est assez fort. Enfin, c'est assez drôle, cette affaire, en fait. C'est assez drôle, et le comique, il demande aussi vachement ça, quoi, d'être... d'être là et de prendre le risque du comique. C'est pas
c'est jamais garanti. D'être très précis aussi.
Et d'être très précis, ouais. D'être beaucoup dans le rythme, d'être très, ouais, très rythmique, énergétique et précis, quoi. Ouais.
Cette aventure, donc, vous êtes accompagné de 8 cœurs. Contrairement au spectacle de Molière où vous jouez seul, là, cette fois-ci, vous êtes combien sur scène ?
Eh bien, on est... Il y a 4 acteurs. 3, attendez. Oui, il y a 3 garçons. Il y a François Herpeux, Pierre-Jean Etienne, Georges Campagnac, Elsa Foucault. Eux, c'est des acteurs-acteurs. Et puis ensuite, on a Marina Churi qui a écrit la musique parce qu'il y a beaucoup de chansons, en fait. Et à des moments... Et oui, ça, j'en ai pas du tout parlé, mais...
C'est le moment.
Oui. En fait, quasiment chaque chapitre se termine par une chanson. Et alors que le ton est très mordant, volontiers transgressif, on est vraiment dans la farce et dans le comique, à la fin de chaque chapitre, et ça, c'est un mouvement qu'on a gardé dans l'adaptation qu'on a fait... Il y a toujours quelque chose qui s'apaise et tout d'un coup on est dans le sentiment et on est dans l'intériorité, même je dirais la sincérité. Les personnages sont tout d'un coup dans un rapport à eux-mêmes entier, pur, sans humour, une sorte d'ultra sincérité, ce qui finit par ailleurs par devenir drôle aussi en fait, mais d'une autre façon. Et ces moments-là sont des moments de chanson. Et on les a transformés en moments quasiment de comédie musicale, en fait. Et c'est-à-dire, et c'est une sorte de... C'est toujours des moments un peu de confession, où le personnage s'extrait de la situation et vient raconter quelque chose de lui, de son sentiment du monde, de sa grande solitude, de sa sensibilité. Et ces mouvements-là sont accompagnés par le chœur. Donc le chœur, il a aussi... le chœur d'amateur qui nous accompagne. Il a aussi pas mal de chansons à apprendre, à travailler. Et ça, ils le font avec Marie. Donc Marie, elle est sur scène, elle est même en bord de scène, elle a un synthétiseur posé sur le bord de la scène, elle est au premier rang, et elle se lève de temps en temps, elle fait à la fois chef d'orchestre pour le chœur, elle a aussi des petits moments de jeu, elle est aussi actrice en fait, et elle chante aussi. Elle fait... Donc voilà, elle a une place un peu spéciale, et il y a une 6e personne qui s'appelle Martin Barré, dit Nours, qui est technicien plutôt, mais qui a aussi des moments de jeu. Bon, ça, c'est un truc récurrent dans les trucs que je fais. Tout le monde joue tout le temps. Ça arrive que là, dans un autre truc qu'on fait qui s'appelle Merlin, qui est un spectacle fleuve, la costumière joue, moi je joue, tout le monde joue, quoi. Il y a que il y a juste un régisseur qui est en régie et qui essaye de tout tenir. Et tout le monde est pris dans le jeu, quoi.
On peut rappeler le nom de la compagnie ?
Oui, c'est Groupe Fantomas.
On peut parler un peu de ce Groupe Fantomas, cette compagnie, depuis quand existe-t-elle ?
Ouais, ça existe depuis 2013. Et le premier spectacle qu'on a fait, donc, c'est le Tartuffe d'après Tartuffe d'après Tartuffe d'après Molière, donc, qui était un solo où je suis tout, dans lequel que je fais tout seul. Et puis ensuite, on a fait une sorte de grand écart parce qu'on a monté un spectacle qui s'appelle Merlin, d'après Tancred d'Horst, qui est un dramaturge allemand de la fin du XXe siècle, qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui raconte, à travers les légendes de la Table ronde, la construction d'une utopie, en fait, qui est la Table ronde, qui est à la fois une utopie et un concept, et une idée d'organisation, enfin, révolutionnaire, et qui va modifier le monde. Voilà, cette idée arrivant dans le réel, elle va modifier le réel. L'améliorer en quelque sorte, et puis cette idée et cette table ronde vont vieillir, et il y a une génération suivante qui arrive et qui va avoir affaire. Cette table ronde, c'est devenu une institution, c'est-à-dire qu'elle s'est sclérosée, elle est, voilà, c'est un héritage en fait, et ils savent pas trop quoi en faire et comment l'attraper, et puis ça va partir du coup à la catastrophe. Et voilà, c'est une sorte de montée et descente et destruction totale à la fin. Et c'est un spectacle, le fleuve, ça dure 7 heures en fait. Et on le joue en 4 épisodes, les gens mangent au milieu, il y a 3 pauses, voilà. Et puis des pauses plus ou moins longues et tout ça, dont une où ils mangent. Et il y a un côté aussi très... C'est un spectacle, même si ça raconte un... Enfin, la fin est vraiment très sombre, vraiment une tentative de théâtre populaire, quoi. De se dire, on passe la journée avec les gens, c'est très festif. Puis le mode de jeu, encore une fois, est plutôt... c'est beaucoup le comique qui tire aussi les choses. Voilà quoi. Donc ça, c'était le deuxième spectacle de Groupe Fantomas. Ensuite, il y a eu La Centrale en Chaleur, donc celui qu'on va venir à jouer à Die le 26 juin. Et là, on en prépare un quatrième qui s'appelle Faillir être flingué, qui est un western tiré d'un roman de Céline Minard, qui est une autrice contemporaine française. Pareil, qu'on adapte pour le théâtre. Et qui est une sorte... C'est mille choses, Faillir être flingué, mais il y a un côté western zadiste, quoi. C'est un peu un western qui nous met pas du tout dans une logique sécuritaire et qui nous... c'est pas du tout documentaire, c'est vraiment de la fiction et ça se réfère beaucoup au genre western aussi. Mais elle réussit la prouesse de pas faire une variation de plus, mais à essayer de se remettre à la source de cet imaginaire-là. Et elle nous remet vraiment dans les sensations. C'est quoi être un pionnier, débarquer là-bas et arriver sur une zone où il y a une ville en construction, où on est dans une zone de non-droit total, rien n'est civilisé. Enfin, il y a que du commerce, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'école, pas de shérif, pas de services postaux, pas de banque. Et tout le monde a des projections, des désirs, des besoins, des projets précis de construction... et aussi des souvenirs, des traumatismes, des regrets, une mémoire aussi qui est là. Et on va suivre une bande d'individus dans une zone comme ça, qui va essayer de construire quelque chose et de survivre. En gros, c'est ça. Et le roman, en tout cas, j'espère que le spectacle le sera aussi, mais il est très joyeux. Alors que c'est très dangereux, c'est très joyeux, quoi. Et on voit très bien comment se met en... C'est un récit choral. Il n'y a pas de personnage principal, quoi. C'est vraiment, c'est un peu comme dans certains romans de Faulkner. Il y a vraiment le prisme de chacun qui est là. En même temps, il y a un système d'entraide en fait qui va se mettre en place, mais qui est sans sentimentalisme, quoi. C'est vraiment concret, quoi. Il y a un côté philosophie américaine libérale des origines. C'est vraiment, la pensée est mêlée à l'acte tout le temps. Enfin, c'est vraiment, il y a un truc comme ça, quoi.
Le groupe Fantomas, ce nom, vous l'avez décidé pour quelle raison ?
La figure de Fantomas, elle est intéressante parce que c'est une sorte de génie du mal, c'est une sorte de voleur, enfin de criminel en fait, il ne fait pas que voler d'ailleurs. On ne sait pas trop quels sont ses motifs en fait, mais il fait le mal quoi. Et dans les romans, c'était des romans en feuilleton, mais c'était deux auteurs qui écrivaient ça, mais je ne sais plus leur nom. C'était vraiment inscrit dans l'époque et c'est très détaillé sur le Paris du début du 20e. Il y a un truc très précis, donc c'est presque documentaire en fait quand on les lit. On a vraiment une sensation de réel forte et en même temps c'est invraisemblable, les aventures de Fantomas. Et donc il y a ce grand écart là que j'aimais bien et la figure elle est bien parce qu'on sait jamais qui c'est puisque c'est un personnage mystérieux, totalement, il est masqué, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi il fait ça. Donc j'aimais bien l'idée de noyer le poisson, aussi par parce qu'on est dans une ambiance, et même là j'y participe en quelque sorte, mais où dans le milieu culturel en France, en ce moment, on sanctuarise vachement la figure du metteur en scène, il y a un truc avec ça. Et j'aimais bien l'idée de dire, c'est groupe Fantomas, c'est-à-dire c'est groupe. et Fantomas, ça fait double embrouille. et de faire disparaître Guillaume Bayard, quoi. Mais par ailleurs, souvent, on communique Guillaume Bayard et groupe Fantomas, donc ça marche à moitié. mais voilà, l'idée à la base, c'était un peu ça. C'était de dire, peu importe l'auteur, en fait. Enfin, peu importe l'auteur. Ce qui compte, c'est le phénomène, quoi. C'est le truc qu'on va faire, c'est le spectacle, c'est le moment, en fait. Y a rien à tracer, quoi. On vient faire quelque chose d'incroyable, on espère.
Est-ce qu'il y a un fil rouge parmi toutes ces œuvres ou ces spectacles ?
Il y a un fil rouge, je ne sais pas trop.
Est-ce qu'il y a un motif qui revient ?
Ouais, il y a des choses il y a des logiques de fabrication qui reviennent. Un peu ce que je vous racontais sur un rapport érotique à la représentation. Justement, d'être dans un rapport vraiment lointain à la représentation, au fait de représenter. On essaye d'être dans l'action, en fait. On met en place des trucs, ça. Je sais pas, il y a ça, évidemment.
Parfois, l'accident a sa place aussi ?
Ouais, à fond, à fond. Quand on répète, en tout cas, ouais, les meilleures choses arrivent toujours quand on s'y attend pas. Donc les trouvailles de jeu, même les trouvailles de mise en scène, si on peut dire. Moi, mon but ultime de metteur en scène, ça serait de... On en parle souvent avec Théodore Oliver, qui est un metteur en scène aussi, qui est plus jeune que moi, qui habite à Toulouse, et qui a fait l'assistant sur Merlin, et qui travaille maintenant, on collabore à la mise en scène sur tous les projets. Et souvent, on parle de ça, du fait de... Moi, j'ai un fantasme, c'est de plus avoir d'idées, en fait. C'est-à-dire que juste de faire des trucs et que la chose se fabrique toute seule et d'assister ça, en fait. Enfin, et après, bon, voilà, c'est un souhait, ça arrive jamais vraiment. Mais y a vraiment l'idée de faire disparaître la mise en scène alors que tout est très... Il y a beaucoup d'action, enfin, on réfléchit beaucoup les choses et tout, mais on réfléchit à créer des dispositifs qui vont faire que ça se fabrique, en fait. Enfin, c'est un peu un vœu, hein, ça. C'est pas, on n'y arrive pas vraiment. On triche plein de fois, on a des bonnes idées, puis on les utilise. Mais voilà, il y a un truc, une recherche de voilà, quelque chose qui se fabriquerait de façon organique, avec une petite micro-société qui est là, avec des gens qui ont des compétences, qui savent très bien faire certains trucs, pas forcément d'autres. Mais des fois, on va leur demander aussi de faire des choses qu'ils savent mal faire, par exemple. C'est pour ça que tout le monde joue. Il y a un truc aussi, et ça, c'est une mauvaise réclame, mais c'est pour ça que ça m'intéresse aussi de bosser avec des amateurs sur le cœur. C'est que je trouve que les acteurs amateurs, souvent, dans la maladresse qu'ils ont, quand ils sont engagés, en fait, c'est des acteurs ultra intéressants. Et les acteurs professionnels, souvent... Souvent, c'est une généralité, hein, mais peuvent être assez ennuyeux.
Ils ont leurs outils,
ça ronronne, ils ont des savoir-faire, ils sont dans un rapport fort à la représentation. Du coup, ça comme ils sont en représentation, ils ne sont pas en présentation, donc ils sont moins présents. Et nous, des fois, c'est une critique que je... Enfin, c'est presque une blague aussi, mais que je peux faire aux acteurs ou qu'on se fait entre nous. C'est que c'est trop professionnel.
c'est de maintenir le trac le plus longtemps possible sur la scène.
Ouais, le trac ou l'incertitude ou la maladresse ou le fait de se mettre en risque. Mais c'est un risque, voilà, c'est un risque relatif. Enfin, on joue, quoi, donc il n'y a rien de grave. Mais en même temps, voilà, il y a un risque, ouais. Moi, j'aime bien que les acteurs ils soient dans un rapport intense. Et l'intensité, ça se trouve quand on n'est pas très à l'aise, en fait.
C'est là qu'on peut trouver l'érotisme aussi, justement dans cette nudité, sans masque, sans phare, sans rôle, de se retrouver nu devant un public.
Ouais, mais là, on fait un peu un contresens par rapport au travail. C'est que nous, on est aussi, alors ça semble contradictoire, mais je pense que ça l'est pas, dans un jeu qui est parfois très masqué, en fait. C'est ça, on va volontiers composer, par exemple, comme on dit, faire des personnages. Des fois, ça joue vraiment gros aussi, des fois, ça joue gros, quoi. Et l'érotisme, pour moi, il est plus... ce que vous dites, finalement, le fait d'être un peu démuni comme ça, c'est pas... Les acteurs de Fantômas, ils sont pas démunis, c'est pas vraiment ça, parce que les conduites de jeu, elles sont vachement précises. C'est assez...
Et il y a ce tremblement, peut-être.
Ouais, il y a un truc.
Ce tremblement dont parle Artaud aussi.
Ouais, carrément. Ouais, à fond. Ah oui, très... ça, c'est tout à fait. C'est vrai, ça. Il y a quelque chose qui est. Moi, je dis plutôt vibratoire, en fait. C'est-à-dire. Qui est vivant, en fait. Mais c'est pas simple d'être vivant. Quand on est pris dans une représentation. La tendance, c'est de se rassurer, c'est de se mettre dans un rapport analogique. C'est-à-dire qu'on sait faire la chose, on la refait comme on l'a déjà fait. Et puis, quelque part, on la tue un peu, quoi. Et nous, on essaye tout le temps de se remettre à la source de l'imaginaire, des spectateurs, du texte qu'on est en train de dire, de convoquer l'imaginaire des acteurs et des spectateurs, enfin, d'être dans un rapport, comme ça, rituel, quoi. Enfin,
Guillaume Paillard, je vous remercie en tout cas d'être venu nous parler de ce spectacle La Centrale en Chaleur, qui sera joué donc ce 26 juin. Ça sera quel jour, le sait-on ?
C'est un samedi.
C'est un samedi, ouais. En début de soirée, vers 19h,
19h30. Je crois que c'est 19h30, mais ils ne nous ont pas confirmé l'horaire, mais je crois que c'est ça.
Et j'invite les auditeurs, entre autres, à aller visiter le site internet du Théâtre Désert. Ouais. Et moi-même, je mettrai l'information sur la page internet de cette émission pour les horaires. Oui.
Je voulais rajouter un petit truc, c'est que pendant le confinement, on n'a pas arrêté dans l'équipe de penser à la centrale en chaleur, parce que c'est vraiment une catastrophe qui... Ça raconte ça, la catastrophe qui arrive à une société. Enfin, c'est presque le... Il y a un gars, j'ai oublié son nom aussi, c'est Moreau, son nom de famille, mais j'ai plus le prénom qui me vient, qui a écrit un livre. Lui, c'est un physicien des fluides à la base, et il a écrit un livre sur les catastrophes. « Vivre avec les catastrophes », ça s'appelle. Je ne sais plus où c'est édité. Et il raconte ça, il dit finalement... et je trouve que la physique des fluides, c'est intéressant de se dire, voilà, la physique des fluides, elle étudie comment des fluides vont, en rencontrant des contraintes et des formes, comment ça va circuler quand même. Et finalement, il regarde les catastrophes comme ça, en disant, il y a une catastrophe, il y a une déflagration à un moment, et ça va envahir la société, la modifier, prendre sa forme à des moments, enfin... Et il observe ça. Et finalement, j'ai l'impression que Genichiro Takahashi, c'est ça qu'il regarde. Et donc, nous, c'est ça qu'on essaye de regarder. Et du coup, par rapport au Covid et tout, c'est vrai qu'il y a un côté... Enfin, nous, ça nous fait vraiment plaisir de jouer ce spectacle après cette année de Covid. Enfin, de Covid. D'ailleurs, c'est pas Covid lui-même. Même moi, là, je suis dans le... je vais trop vite, je fais un court-circuit. Mais dans le... Voilà, ce qu'un événement comme ça fait à notre société, en fait. J'ai l'impression que le spectacle, à des moments, il y a... Ça, on parle pas directement, mais il y a plein de ponts qu'on fait assez facilement, en fait. Du coup, je pense que c'est vraiment intéressant. Si vous avez l'occasion d'aller au théâtre, venez voir ça. Je pense que c'est intéressant, ouais.
Guillaume Bayard, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Okay, the bird.